Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 22 octobre 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Dans le projet de constitution du Gabon, le président sera élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Le référendum est prévu le 16 novembre. Au Kenya, la Haute Cour a ouvert mardi des audiences sur un recours du vice-président déchu Rigathi Gachagua contre sa destitution inédite la semaine dernière. Au Mozambique, le principal opposant, Venancio Mondlane, accuse les forces de sécurité d'avoir assassiné son avocat Evino Dias. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a discuté avec le premier ministre israélien au début de tournée au Proche-Orient visant à avancer vers un cessez-le-feu à Gaza. Et dans notre partie magazine, ici aux États-Unis, les candidats à l'élection présidentielle cherchent ardemment à obtenir le soutien des membres du syndicat.
Cela va être adoré par les employés, par tous les employés, en particulier ceux qui n'ont pas de salaire et qui travaillent avec des pourboires. Ils vont adorer ça.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Gabon, le projet de texte constitutionnel, objet du référendum du 16 novembre, a été rendu public hier soir à Libreville. Mais certaines de ces dispositions n'ont pas fini de susciter la polémique dans le pays, notamment la suppression du poste de Premier ministre, du renforcement du pouvoir exécutif du chef de l'État, les conditions d'accès à la présidence de la République. Le point avec Ismaël Obiangdi.
Dans le texte nouveau de la Constitution gabonaise, pas de changement notable sur les articles controversés. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois et les critères d'éligibilité à la fonction suprême restent de l'avis des observateurs très stricts. Sur les Gabonais nés de parents gabonais, âgés de 35 à 70 ans et mariés à des citoyens gabonais peuvent se porter candidats à la présidence. Pourtant critiquée dans le texte initial pour son caractère discriminatoire, cette disposition est maintenue et établit une différence nette entre les Gabonais de souche et les autres, excluant les Gabonais naturalisés et ceux disposant d'une double nationalité. Plus loin, le document instaure une présidence centralisée marquée par la suppression du poste de Premier ministre au profit d'un vice-président du gouvernement. Le chef de l'État devient donc le chef incontesté de l'exécutif avec une mainmise sur l'ensemble des décisions gouvernementales et politiques. Enfin, le service militaire redevient obligatoire pour les Gabonais de deux sexes. Reste désormais à la Cour constitutionnelle d'apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à l'adoption de ce projet de constitution. Passé cette étape, le processus électoral suivra son cours jusqu'au vote du texte soumis à référendum le 16 novembre prochain. Ismaël Obiangdi pour VOA Afrique, Libreville.
L'Angola, médiateur dans le conflit entre Kigali et Kinshasa, a accusé pour la première fois les rebelles du M23 d'avoir violé le cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo dans un communiqué mardi. Début août, la médiation angolaise a obtenu la signature d'un accord de cessez-le-feu. Mais dimanche, le M23 s'est provisoirement emparé de la ville de Kalembe, située dans la province troublée du Nord Kivu, après de violents combats contre des milices locales appuyant l'armée congolaise. Des militants soudanais ont fait état mardi de la mort de plus de 50 personnes depuis le début dimanche de combats violents entre l'armée et les paramilitaires dans le centre du Soudan, dans la ville de Wad Madani. Une frappe aérienne de l'armée sur une mosquée a tué au moins 31 personnes a déclaré mardi dans un communiqué le comité de résistance locale à un groupe pro-démocratie. Plus de la moitié des victimes n'ont pas été identifiées, a précisé le comité, accusant l'armée soudanaise d'avoir utilisé des barils remplis d'explosifs. Au Kenya, la Haute Cour a ouvert aujourd'hui des audiences sur un recours du vice-président déchu Rigathi Gachagua contre sa destitution. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les débats se sont ouverts en présence du vice-président déchu Rigathi Gachagua. Mais la procédure judiciaire a été contestée par ses avocats et par le chef de l'État, William Ruto. L'équipe de Gachagua a remis en question la composition du panel de trois juges pour l'affaire, soutenant qu'il n'avait pas été constitué par la juge présidente de la Haute Cour kenyane, Martha Koome, mais par son adjoint. Dans une saisine distincte, le président William Ruto a estimé que la Haute Cour n'a pas la compétence sur l'affaire, relevant selon le chef de l'État de la Cour suprême. Le Sénat a jugé la semaine dernière Rigathi Gachagua coupable de violations graves de la Constitution, de menaces envers les juges et de pratiques politiques de division ethnique. Gachagua est devenu le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure prévue par la Constitution de 2010. Quelques heures après le vote historique du Sénat, le chef de l'État a nommé le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, à la vice-présidence. Jugeant sa destitution anticonstitutionnelle et précipitée, les avocats de Gachagua ont saisi la haute cour kenyane qui a suspendu le remplacement de ce dernier, citant des questions constitutionnelles monumentales.
Les Nations Unies ont indiqué mardi d'être profondément préoccupées après le renvoi de 4 réfugiés turcs depuis le Kenya. Les 4 individus ont été renvoyés en Turquie vendredi, a indiqué lundi le ministère kenyan des Affaires étrangères, qui a déclaré avoir reçu de la Turquie l'assurance qu'ils seront traités avec dignité. En Ouganda, un camion-citerne a explosé après une perte de contrôle sur une voie rapide près de Kampala, faisant moins 10 morts. L'accident s'est produit dans la localité de Kigogwa, à environ 25 km au nord de la capitale ougandaise. Le chauffeur n'a pas réussi à freiner, a précisé Charles Luanga, le responsable du district où s'est produit l'accident. Au moment où des gens arrivaient pour dérober de l'essence, il y a eu un incendie qui a provoqué la mort de 10 personnes brûlées vives, a-t-il ajouté. En Tunisie, Hayat Chizamel, candidat malheureux à la présidentielle du 6 octobre, a écopé de nouvelles peines de prison portant à 31 ans de détention. Les condamnations à son encontre pour des affaires liées au parrainage, a indiqué mardi son avocat. Le tribunal a condamné lundi soir Hayat Chizamel dans 3 affaires séparées et M. Zamel doit comparaître jeudi devant le tribunal de première instance de Manouba, près de Tunis. Au Mozambique, le principal opposant Venancio Mondlane a accusé mardi les forces de sécurité d'avoir assassiné son avocat. Ce dernier a été abattu samedi alors qu'il préparait un recours contre des fraudes lors du scrutin du 9 octobre. Les précisions de Jean-Roger Billon.
L'opposant mozambicain est formel, cela ne fait aucun doute. Ce sont les forces spéciales qui ont tué son avocat, Elvino Diaz, de 25 coups de feu. Se revendiquant vainqueur face au Frelimo, parti au pouvoir depuis un demi-siècle, Venancio Mondlane a appelé à paralyser le pays jeudi et vendredi, annonçant qu'une opportunité, un climat, une atmosphère révolutionnaire se présente. La tension pourrait s'intensifier dès demain mercredi avec l'enterrement d'Elvino Diaz. Dans ce contexte, les observateurs de l'Union européenne déclarent que ce scrutin est entaché par des altérations injustifiées des résultats des élections au niveau des bureaux de vote et des districts. Il est essentiel que tous les candidats bénéficient de mesures de protection rigoureuses en cette période post-électorale, avait avancé samedi l'Union européenne dans un communiqué à quelques jours de l'annonce des résultats officiels.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré ce mardi le premier ministre israélien au début de sa 11e tournée au Proche-Orient. Le responsable américain espère encourager un cessez-le-feu à Gaza au moment où Israël intensifie son offensive au Liban contre le Hezbollah. Mouamadou Oumfa.
Monsieur Blinken a souligné le besoin de tirer parti de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, en assurant la libération de tous les otages et en mettant fin au conflit à Gaza d'une façon qui garantisse une sécurité durable pour les Israéliens et les Palestiniens, a précisé Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Netanyahou lui a répondu que la mort de Sinwar pourrait avoir un effet positif sur le retour des otages. Il dit avoir discuté avec Blinken du type de gouvernement à Gaza au lendemain de la guerre. La question de la menace iranienne a aussi été abordée. Monsieur Netanyahou a remercié Monsieur Blinken pour le soutien des États-Unis dans la lutte contre l'axe du mal et du terrorisme iranien, ajoute le communiqué du bureau du Premier ministre israélien. Cette mission survient au moment où l'aviation israélienne a mené plusieurs frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah libanais, après avoir appelé la population à évacuer.
Le président russe Vladimir Poutine a affiché mardi son entente avec les pays des BRICS lors du sommet de ce groupe auquel appartiennent la Chine et l'Inde. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le conflit en Ukraine et les relations avec les Occidentaux ont été abordés. La Corée du Nord a nié lundi fournir des troupes à la Russie. Un représentant de Pyongyang à l'ONU l'a même qualifié de rumeur sans fondement cette information de Séoul. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le Fonds monétaire international a révisé ce mardi en légère baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour 2025, attendues désormais à 3,2% comme en 2024, du fait d'un ralentissement attendu pour les principaux pays émergents, au premier rang desquels Chine, Russie ou Mexique. L'Éthiopie va obtenir du Fonds monétaire international un décaissement de 340,7 millions de dollars. Addis Abeba a eu le feu vert du FMI en juillet après avoir mené une série de réformes comme la flottaison de sa monnaie, le billet, remettant ainsi la restructuration de sa dette sur les rails. Les Comores critiquent la suspension des liaisons maritimes décidées par Madagascar. Moroni appelle les autorités malgaches à reconsidérer leur position et donner une chance au dialogue. Antananarive a décidé de suspendre le transport maritime entre les deux pays, estimant que l'épidémie de choléra ayant touché l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique repartait à la hausse aux Comores.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Nous commençons par cette 46e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF à Addis Abeba en Éthiopie.
C'est une Assemblée Générale sous la forme de bilan pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, élu en mars 2021 et dont le poste sera remis en jeu en mars 2025.
Good progress has been made. We're going to pass an exco resolution in the next few days.
Des progrès importants ont été réalisés. Nous allons adopter une résolution du comité exécutif dans les prochains jours, lancer un appel d'offres et inviter de nombreuses sociétés privées à soumissionner et à participer à ce plan de la CAF pour s'assurer qu'au cours des 8 prochaines années, si 1 milliard de dollars est mis à la disposition du football, chaque centime de cet argent doit être consacré au développement du football. Il doit servir à investir dans la jeunesse. Il doit servir à investir dans des académies pour les garçons et les filles.
In investment in academies for boys and girls, and part of the plan is to ensure that.
Et une partie du plan consiste à s'assurer que si nous parvenons à ce que chaque nation africaine ou chaque association membre reçoive 1 million de dollars chaque année de la CAF à partir de 2026, beaucoup de progrès auront été réalisés.
In 2026, a lot of good progress will have been made.
En attendant, les nations africaines continueront à lutter pour être prises au sérieux sur la scène mondiale, foi de Patrice Motsepe qui a aussi fait l'éloge de l'approche tolérance zéro à l'égard de la corruption au sein de la CAF et a noté le nouvel esprit qui, selon lui, existe désormais au sein de l'organisation. Présent à Addis Abeba pour cette AG ordinaire de la CAF, le président de la FIFA Gianni Infantino est une fois de plus revenu sur la présence attendue de plus d'équipes africaines lors du prochain mondial.
Pour la première fois dans moins de 2 ans, lors de la Coupe du Monde 2026, 9 ou 10 pays africains participeront à la Coupe du Monde. Il y en avait 5 jusqu'à la dernière Coupe du Monde. Nous doublons le nombre de pays africains participant à la Coupe du Monde, ce qui stimule évidemment les investissements dans le football et le développement du football dans toute l'Afrique.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Début ce soir des matchs de la nouvelle saison NBA.
En ouverture de cette saison 2024-2025, le champion en titre Boston, qui fait figure d'immense favori, fait face aux Knicks de New York. Un peu plus tard, les Lakers du duo père et fils, LeBron et Bronny James, affrontent Minnesota. Pour cette nouvelle saison, de nombreuses franchises, dont les Philadelphia Sixers du MVP 2023, le Camerounais Joel Embiid, peuvent prétendre au titre selon notre consultant Amdine Sy.
Boston qui avait quand même brillé lors de la saison régulière avec 64 victoires et 18 défaites. Boston n'avait concédé que 3 petites défaites lors des playoffs pour remporter ce titre. Mais attention, des équipes comme Philadelphia, hein, du Camerounais Joel Embiid pourra jouer leur rôle de trompette, surtout que cette année, ils ont un renfort puisque Joel sera épaulé par Paul George.
Amdine Sy, consultant sportif.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, à Sangué, dans le territoire d'Uvira, une région verdoyante du sud Kivu, où la terre fertile commence à donner une nouvelle opportunité économique qui est la culture du piment. Grâce à un contrat entre une coopérative locale et la Chine, cette plante épicée pourrait transformer la vie de ceux qui travaillent la terre. Le reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Ici à l'Ubérizi, dans le territoire d'Uvira, plusieurs hectares sont dédiés à la culture du piment. Les cultivateurs retournent la terre et préparent les semis. Chaque plante soigneusement entretenue est une promesse des récoltes à venir. Ombeni François, cultivateur, prépare son champ.
Je prépare les semences pour les répliquer dans mon champ. Dans 3 semaines, les plantules seront prêtes à être mises en terre. C'est un travail important qui va nous permettre de gagner notre vie.
Le travail de la terre est difficile. Les cultivateurs doivent labourer, semer et arroser sous un soleil de plomb. L'effort en vaut la peine car cette nouvelle production et source de revenus stables.
L'année dernière, je vendais ma production uniquement sur le marché local. Aujourd'hui, avec ce contrat, je suis motivé à cultiver plusieurs hectares car les acheteurs chinois sont prêts à payer un bon prix.
La coopérative Mikono ya Wajenzi, qui veut dire « les mains des constructeurs en Swahili », est au cœur de ces projets. Elle a mobilisé les cultivateurs de la plaine de la Ruzizi pour assurer une production suffisante. Jean Massémon, président de la coopérative, nous explique l'ampleur du travail.
Nous avons planifié 250 hectares. Et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà enregistré plus de 185 hectares dont les agriculteurs s'engagent à produire les piments. Et la première livraison du piment interviendra au mois de mars 2025. Et pour la première livraison, nous sommes sûrs et certains que nous pouvons arriver à 250 tonnes.
À Uvira, au site Kivu, la culture du piment pourrait bien devenir le pilier de l'économie locale. Avec des contrats stables et des prix attractifs, les cultivateurs espèrent améliorer leur quotidien et dynamiser toute la région. Zalem Neti Zaidi pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Togo, c'est le mois du consommer local. Depuis 5 ans, des activités de promotion de tout genre de produits locaux se font sur toute l'étendue du territoire. Pour cette année, l'accent est mis sur les enjeux et les défis du développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable. De Lomé, notre correspondant Kossi Wursou.
C'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui est à l'origine de cette initiative pour promouvoir la production locale dans les 8 pays membres. Pour Aminata Lopaye, représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Togo, il est question d'intensifier les actions auprès des populations afin qu'elles adoptent les produits transformés localement.
Les objectifs poursuivis à travers cette initiative sont entre autres la promotion de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux, l'encouragement des populations à la consommation des produits locaux, la création d'emplois à travers la transformation industrielle des produits et la fourniture des biens et services.
Au Togo, les autorités misent sur la création d'usines de transformation des matières premières locales. À l'exemple de l'usine Togo Soja installée sur la plateforme industrielle de Lomé qui peut traiter les 2/3 des 300 000 tonnes de production annuelle du soja. Toyo Yao, président d'un groupement d'intérêt économique de producteurs de soja, estime qu'il y va de l'intérêt de tout le monde de s'inscrire dans cette dynamique.
Nous, en tant que jeunes entrepreneurs, des leaders de la production et de l'exportation du soja togolais depuis près de 15 ans, nous avons compris qu'avec cette unité de transformation du soja, nous créons plus de la valeur ajoutée à cette graine et donc nous améliorons donc les revenus de nos producteurs et nous créons également plus d'emplois à travers la transformation locale.
Kwigan Yawa, porte-parole du gouvernement, se félicite de cette prise de conscience des acteurs du secteur agroalimentaire.
Il faut que tout l'écosystème de la production et de la commercialisation au niveau national puisse se trouver dans un partenariat constructif et vertueux avec ces unités de transformation pour que cette ambition de réaliser l'industrialisation puisse être atteinte par les efforts de nous tous.
Chaque année, le Togo importe plus de 200 000 tonnes de riz pour satisfaire le marché local. Christelle Dico, de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, y voit une opportunité pour le projet d'appui à la valorisation du riz togolais Pavrit que vient de lancer son institution pour réduire le gap.
Si nous arrivons à résoudre les problèmes d'équité d'achalandage, si nous arrivons à résoudre les problèmes de défaillance des chaînes de production, si nous arrivons à résoudre des problèmes de transformation du riz local, il va arriver un moment où il n'y aura aucun problème pour s'approvisionner en riz local.
Pour ce mois du consommé local, des caravanes et des expositions de produits transformés au Togo se font sur toute l'étendue du territoire national pour susciter l'intérêt des populations à consommer local. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé. Sur 102.3 FM.
Plusieurs États membres de l'Union européenne demandent à l'Union de mettre un frein à l'immigration alors que les partis politiques de droite sont de plus en plus nombreux à bénéficier d'un soutien des électeurs. Mais l'Espagne va à l'encontre de ces tendances et insiste sur le fait que la population vieillissante de l'Europe a besoin d'une migration contrôlée pour stimuler son économie. Le reportage d'Henry Ridgewell avec la voix de Gabi Dorsil.
Plus de 42 000 migrants clandestins sont arrivés en Espagne depuis le début de l'année, soit une augmentation de 2/3 par rapport à 2023. La plupart d'entre eux arrivent sur les îles Canaries, à plus de 100 km des côtes africaines. Rien que l'année dernière, environ 6 000 migrants sont morts en tentant la traversée, selon les groupes de défense des droits de l'homme. Mais pour beaucoup, les dangers sont compensés par le rêve d'une nouvelle vie en Europe. Massiré Konaré, 22 ans, est arrivé en Espagne en provenance du Mali.
Si vous réussissez ici, la seule chose que vous devez faire est d'aller en classe, de continuer à apprendre, de parler aux gens. Il faut être ouvert, surtout en tant qu'immigré. Il faut redoubler d'efforts et c'est ce que nous faisons maintenant. Si vous réussissez ici, la seule chose que vous devez faire est d'aller en classe, de continuer à apprendre, de parler aux gens. Il faut être ouvert, surtout en tant qu'immigré. Il faut redoubler d'efforts et c'est ce que nous faisons maintenant.
Pour les migrants, il y a l'espoir d'une vie meilleure. Le gouvernement espagnol y voit également un potentiel économique. À l'instar de nombreux pays occidentaux, la population espagnole vieillit rapidement. Elle a désespérément besoin de jeunes travailleurs pour développer l'économie et payer les impôts. Or, l'année dernière, le taux de natalité du pays a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, à moins de 1,2, soit l'un des plus bas d'Europe. S'exprimant lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne jeudi, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré que l'immigration était vitale.
La compétitivité présente et future, le crescimiento económico de nuestro país.
Notre compétitivité actuelle et future, la croissance économique de notre pays, la durabilité de notre modèle social dépendent également de l'immigration. Nous devons gérer les flux migratoires dans la perspective du défi démographique.
Mais face à la montée du soutien aux partis d'extrême droite en Europe, beaucoup d'États membres de l'UE souhaitent un contrôle plus strict de l'immigration. Il ne sera pas facile de trouver un équilibre. Jesús Verdú Baeza est professeur agrégé de droit à l'université de Cadiz.
We are a country with strong values.
Nous sommes un pays avec des valeurs fortes et nous voulons cet équilibre entre le contrôle de la migration et le fait d'offrir aux demandeurs d'asile un moyen légal d'entrer et de respecter leurs droits. Nous avons besoin d'eux. Ici, en Espagne, sans migrants, nous n'aurions pas de fruits au supermarché. Il est possible que l'économie ne puisse tout simplement pas fonctionner correctement. Nous avons besoin des migrants.
Dans le cadre de sa nouvelle approche, l'Espagne élabore une stratégie pour l'Afrique axée sur ce qu'elle décrit comme la transformation économique et sociale du continent. Tout en cherchant à faciliter l'immigration légale, l'Espagne tente d'empêcher les migrants clandestins d'arriver sur ses côtes. Elle souhaite que l'Agence européenne des frontières, Frontex, demande l'autorisation de patrouiller le long des côtes africaines afin d'intercepter les bateaux de migrants. De nombreux migrants sont traumatisés par leur voyage. Ahmed Karab, 21 ans, est originaire du Maroc.
Je voudrais donner un conseil à mes compatriotes et à mes amis. Ne venez pas dans un petit bateau, car ils sont très dangereux.
L'Espagne souhaite une solution à long terme pour la migration qui soit efficace pour l'Afrique et pour l'Europe. Mais l'espoir d'une vie meilleure continue d'attirer des dizaines de milliers de personnes sur ces mers dangereuses.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, dans tout le pays, environ 14 millions d'électeurs sont membres de syndicats, des organisations de travailleurs créées pour protéger leurs droits. Bien que les syndicats ne représentent qu'une petite partie de l'électorat américain, les candidats à l'élection présidentielle cherchent ardemment à obtenir leur soutien. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, nous parle du Nevada où les syndicats ont une voix puissante dans le scrutin présidentiel de cette année. Récit Michel Joseph.
Lors d'un rassemblement en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris à Las Vegas, des travailleurs syndiqués se sont montrés enthousiastes quant à son projet de supprimer l'impôt sur les pourboires ou les gratifications reçues par les travailleurs. Cani Castrol, représentante du syndicat des employés de casino.
Je sais que la vice-présidente Kamala Harris a un plan clair pour mettre fin aux taxes fédérales sur les pourboires pour nous, les travailleurs du secteur des services ici au Nevada. C'est vrai, et que Donald Trump, qui prétend être le sauveur des pourboires pour les travailleurs, c'est un dangereux mensonge.
Le candidat républicain Donald Trump s'est également rendu dans cette ville, capitale du jeu, pour promouvoir son projet de ne pas taxer les pourboires des employés des casinos, des serveuses et des femmes de ménage. Didi Lima, électrice de Trump du Nevada.
Cela va être adoré par les employés, par tous les employés, en particulier ceux qui n'ont pas de salaire et qui travaillent avec des pourboires. Ils vont adorer ça.
Trump a aussi gagné le soutien de la police de Las Vegas. Steve Gramas est le président de l'Association de la police de Las Vegas.
La majorité de nos concitoyens font confiance aux forces de l'ordre. Et donc, si les forces de l'ordre disent « Hey, nous pensons que cette personne a nos intérêts à cœur, qu'elle va assurer votre sécurité, qu'elle va essayer de faire prospérer notre économie », alors les gens font confiance à ce que nous disons.
Il a parlé du soutien de Trump aux forces de l'ordre lors de nombreux rassemblements.
Un homme comme Donald Trump et sa campagne ont toujours été à nos côtés et ont dit « Non, je ne veux pas me plier au vent de la politique ».
L'appui des dizaines de milliers de travailleurs syndiqués employés dans le Nevada est très recherché par les candidats à la présidence. Kamala Harris a également obtenu le soutien du syndicat local des routiers, mais l'Organisation nationale des camionneurs et des travailleurs d'entrepôt a refusé de soutenir l'un ou l'autre des candidats. Certains électeurs du Nevada y voient un signe important. Edward Cramer est un partisan de Trump.
Les routiers ont toujours été démocrates, donc maintenant, s'ils ne sont pas démocrates, ça veut dire qu'ils doivent plutôt pencher vers Trump.
Le syndicat des travailleurs culinaires de Las Vegas a soutenu Kamala Harris. Ted Papageorge est le secrétaire trésorier du groupe des travailleurs culinaires.
Les électeurs de la classe ouvrière sont intelligents, ils ne sont pas bêtes et ils sont un peu sceptiques. Mais le problème avec le président Trump, c'est qu'il ment, et il ment beaucoup. Cependant, Pour la vice-présidente Harris, cela fait partie d'un programme global visant à lutter contre le coût de la vie.
Et ils font du porte-à-porte pour informer les électeurs.
Nous faisons du démarchage pour Kamala Harris.
Ok, nous votons tous pour elle.
Claudia Montréal est membre du syndicat des travailleurs culinaires.
Les grandes entreprises arrivent et pratiquent des prix abusifs sur la nourriture, l'essence, le loyer. C'est pourquoi il est important d'avoir le bon candidat, de leur donner les bonnes informations. Ce que je sais être un fait, c'est que Kamala sera là pour nous, la classe moyenne, les membres des syndicats.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezdelo, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.